quel bonheur de retrouver nos amis du monde diplomatique et d'entendre enfin sur France Inter une voix évoquée le 29 mai 2005 où beaucoup de Français ont voté non, non pas à l'Europe, mais à l'Europe du fric. Il y a une certaine différence. Au revoir.
Bonjour Daniel et à ton équipe. Airbus, qui possède des sociétés dans des paradis fiscaux, tels que les îles Caïmans. Airbus, filiale de ADS, actuellement sous les feux de l'actualité avec l'affaire Clistrim et la fermeture d'Arsoferma. Airbus, donc, vient d'être condamné par la Cour d'appel de Toulouse pour discrimination syndicale envers quatre syndiqués CGT. C'est la huitième fois qu'Airbus est condamné pour ce délit. Et les dommages et intérêts s'échelonnent de 72 à 135 000 euros. Plus de 300 syndiqués CGT ont aussi porté plainte devant le Conseil des prud'hommes de Toulouse pour discrimination syndicale. Discrimination mise en place fin des années 60 par le tristement célèbre Maurice Papon, PDG alors de cette aviation. Discrimination poursuivie aujourd'hui par les dirigeants d'Airbus et de l'ADS. Il y a quelques mois, sous l'égide du président de la République, les plus hautes autorités de l'État mettaient en place une institution au service de l'égalité pour lutter contre toute forme de discrimination. Il semble que les dirigeants d'Airbus et de l'ADS, dont l'État français et le groupe Lagardère sont parmi les actionnaires principaux, ne se sentent pas concernés par cette cause nationale. Sont-ils à ce point protégés pour qu'ils se sentent au-dessus des lois? C'est la question que je me pose. Merci pour tes émissions, Daniel, c'est Christian de Toulouse.
Salut Daniel, j'ai lu un truc dingue dans le plan B numéro 2 qui vient de sortir en kiosque et je me suis dit que ça intéresserait les auditeurs de là-bas si j'y suis. Alors, on peut lire dans un rapport publié le 2 mars 2006 que la Banque mondiale affirme que les pertes liées à la malnutrition s'élèvent jusqu'à 3% du PIB d'un pays. Ou encore, encore plus précis, l'amoindrissement de 1% de la taille d'un individu du fait d'une malnutrition équivaut à une perte de productivité de 1,4%. Bon, bah alors pour la Banque mondiale, aider les gens qui meurent de faim, d'accord, mais seulement si c'est rentable. Et donc en fait, c'est la malnutrition, ça pose problème parce qu'elle empêche les patrons de faire exuder suffisamment d'euros aux populations pauvres. Donc là, je me dis qu'on atteint des sommets dans l'économisme et je me suis dit que ça intéresserait les auditeurs. Au revoir.
L'association des anciens appelés contre la guerre en Algérie sera présente au Salon international de la paix qui se tiendra à Paris, à la Cité de la musique, du 2 au 4 juin prochain et il y attend votre visite. Elle regroupe déjà 56 adhérents et une cinquantaine d'amis. Nous appelons tous les anciens appelés en Algérie, en Tunisie et au Maroc, qui partagent notre point de vue, à nous rejoindre. Depuis janvier 2004, l'association s'est élargie. 56 adhérents en France reversent leur retraite, 25 ont promis de nous rejoindre dans les prochains mois, et 30 amis de l'association soutiennent notre action. Notre association, créée en 2004, s'est donnée pour objectif, à partir d'un travail de mémoire sur la guerre d'Algérie, de réfléchir, témoigner, œuvrer pour la paix et venir en aide à ceux qui souffrent des guerres. Ce que nous avons vécu ou vu en Algérie, l'inutilité de ce conflit, la conscience de l'horreur de la guerre, le désir de transmettre ce message aux jeunes générations, nous a amenés à réfléchir et à ne pas garder cet argent pour nous, mais à le mettre au service de la paix. 50 ans après ce drame, il est temps de tourner la page, comme nous avons su le faire avec le peuple allemand. Site internet www.cot81.com. Voilà, rejoignez-nous, appelez-nous et nous vous indiquerons quelles sont les démarches à suivre pour obtenir votre retraite de combattant et la reverser.
Voilà, les 56 anciens combattants d'Algérie qui ont décidé, vous avez compris, de reverser leur retraite d'anciens combattants à des œuvres pacifiques. Vous vous souvenez qu'on avait, on les avait rencontrés, on avait fait une émission avec eux. C'est une très belle démarche. Et donc, vous trouverez sur le site Radio France, à la rubrique France Inter, leurs coordonnées, si vous voulez les rejoindre, prendre contact avec eux. Si vous êtes un ancien appelé en Algérie, peut-être faire comme eux, ça symboliquement, évidemment. Je crois que je pense que les retraites sont pas bien grasses, mais c'est surtout, évidemment, le symbole. Alors, on a parlé aussi du plan B, mais bien sûr, c'est le numéro 2 du plan B, l'événement médiatique de l'année. Et c'est vrai que on nous dit que le premier numéro a très très bien marché. Donc voilà, et ben il faut se sauter sur le second numéro. Et aujourd'hui, aujourd'hui, à quoi rêvent les petits enfants? Des enfants racontent leurs rêves à Anne Rioux. Elle est allée dans une école et elle a demandé aux gamins, aux gosses, à quoi vous rêvez. Voilà, c'est tout. Vous allez voir et entendre les réponses. Et puis autre chose, alors là, absolument, c'est un scoop. Je vais vous faire entendre une chose tout à fait extraordinaire que voici. Voilà, alors vous avez vu, c'est très beau, ce serait peut-être mieux avec interprété avec un clairon, mais enfin, c'est la version d'une chanson qui s'appelle Le Pompeux Cornichon. Et voici les paroles: entartons le pompeux cornichon, pompon pompon, entartons le pompeux cornichon, oui 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 oui, le pompeux cornichon, non 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 non, le pompeux cornichon. Voilà les paroles. Et ces paroles, eh bien, vous les chanterez lundi. Lundi, à partir de 20h30, au théâtre de Jazet, 41 boulevard du Temple à Paris, au métro République, aura lieu un grand événement, le procès en réhabilitation de BHL, c'est-à-dire Bernard-Henri Lévy. C'est le procès du siècle. Nous avons décidé avec des amis journalistes, avocats, musiciens, dessinateurs, notamment du Canard Enchaîné, des corbeaux, des anciens des services secrets, etc., de réhabiliter notre intellectuel national qui a été malmené ces temps derniers par toute une série de jaloux, d'incompétents, de toutes sortes. Donc, lundi, ce sera le procès en réhabilitation de BHL. Vous vous souvenez qu'on a déjà, dans le passé, fait le procès de JC, c'est-à-dire qui correspond aux initiales du président de la République actuelle. Le procès de Sarkozy, on a déjà fait le procès de Sarkozy dans ce même théâtre de Jazet, qui au passage est un monument historique. Si vous le connaissez pas, c'est vraiment une occasion formidable de passer une soirée dans ce théâtre merveilleux. Et voilà donc... lundi, 20h30, 41 boulevard du Temple, à Paris, métro République, au de Jazet, le procès en réhabilitation de BHL. Et il y aura une réduction très importante pour les spectateurs et surtout pour les spectatrices qui viendront avec une chemise blanche ouverte jusqu'au nombril. C'est le message de l'équipe de ce procès. Voilà. Et alors, encore autre chose, avant d'entendre les rêves des petits-enfants, les autres. Les autres, de toutes les musiques qu'on a passées ces dernières années, ça a été le disque le plus demandé par les auditeurs de là-bas, si j'y suis, qui ont dit on veut les références de ce morceau, on veut absolument... Alors, les autres, c'est Abdel Malik, l'auteur de ce morceau. On l'a diffusé dans la série de reportages qui se passait dans cette cité de Rouen. C'était un extrait qu'on vous a fait entendre. On va l'écouter entièrement aujourd'hui parce que c'est un hommage à ce jeune compositeur, auteur, compositeur. Et puis ensuite, donc, les rêves des petits enfants.
Moi, quand j'étais petit, j'avais mal. C'était l'état de mon esprit. Je suis né malade. Sur l'échelle de Richter de la misère, malade, ça vaut bien 6. Quelques degrés en dessous de là où c'est gradué. Fou. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres. J'étais voleur et avant d'aller voler, je priais.
Je demandais à Dieu de ne pas me faire attraper. Je lui demandais que la pêche soit bonne, qu'à la fin de la journée, le liquide déborde de mes poches. Bien souvent, j'ai failli me noyer, j'ai été à sec aussi souvent. Quand je croisais papa le matin, aller travailler avec sa 102 bleue. En rentrant le matin de soirée, je me disais, c'est un bonhomme mon vieux. Ensuite je me faufilais dans mes couvertures et je dormais toute la journée. Le style vampire, dormir la journée et rôder une fois le soleil couché. Le genre prédateur à l'envers, le genre qui à la vue d'un poulet meurt de peur. Je ne me suis jamais fait prendre ici. Et si j'avais été pris au cup, j'aurais dit, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, les autres. J'étais beau parleur et souriais aux filles en jean avec des grosses ceintures. Celles qui aiment bien l'odeur que dégagent les gars qui ont la réputation d'être des ordures. Le genre a juré sur la vie de sa mère dès qu'il ouvre la bouche. Rêve de BMW pour asseoir à la place du mort celle qui couche. Dans mon monde, un mec comme moi, c'est le top. J'aurais été une fille, on me traiterait de sale. Quand je croisais ma sœur avec ses copines dans le quartier, moi calé en soirée, je lui disais, rentre à la baraque, va faire à bouffer. Ensuite j'allais rejoindre mes copines, celles qui me faisaient bien délirer. Celles qui comme moi avaient un père, une mère, peut-être bien des frères et sœurs qui s'aimaient moi. Du genre beau parleur à l'endroit, sans foi ni loi. Mais c'était pas moi le chien, mais les autres. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, et puis les autres, et puis les autres. Et puis du jour au lendemain j'ai viré prêcheur, promettant des flammes aux pécheurs et des femmes aux bons adorateurs. Comme si Dieu avait besoin de ça pour mériter qu'on l'aime. Mais moi pour que les autres m'aiment, moi j'en ai dit des choses pas belles. Et j'en ai accepté aussi, on m'a dit, t'es noir, tu veux te marier avec elle, mais t'es noir. Les autres ils disaient comme ça qu'elle était trop bien pour moi. Donc moi je faisais de la peine à voir, moi je continuais ma parodie, mon escroquerie spirituelle. Sauf que je me carottais moi-même. J'étais devenu un mensonge sur pattes qui saoule grave et qui sait même pas ce qu'il dit. Qui voit même pas que c'est un malade et qui dit comme ça. Qui dit comme ça tout le temps, il dit comme ça, il dit. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Et je vous dis monsieur, quand je pense à tout ça monsieur, je pleure, je pleure.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Anne Riou. Là-bas, si j'y suis, de quoi rêvent les petits enfants?
Flight number 2, arriving.
Des fois, je fais des cauchemars, des fois, je fais des rêves. Il y a toujours des rêves qui sont jolis. Des fois, ils me font pleurer, les rêves.
Oui, mais des fois, je fais un rêve qui me choque.
Je me dis un peu comment je dois faire pour rêver, et après je ferme les yeux, et moi je me souviens pas le lendemain si j'ai fermé mes yeux pour rêver.
Après, je me rendors, je rêve presque pareil. Je me rendors, je rêve le film qui me choque là. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre.
De quelle couleur est la tomate? Bleu, répond l'enfant. Et paf, une baffe lui fout le père à l'enfant en lui disant « Comme ça, sale môme, tu auras une petite idée de ce que j'ai souffert pour devenir conformiste. » Roland Topor l'avait bien vu, l'avait bien mesuré, avait bien mesuré le prix que nous nous faisons payer pour devenir normal, pour être admis. Là, on va en deçà de ça, ou au-delà de ça aussi, comme vous voulez. Dans les rêves que font les enfants. Pas les rêves eux-mêmes, mais le moment de la mise en mots. Le moment de la mise en mots. C'est-à-dire le moment maudit où revient la lumière et on essaye de dire. Le moment charnière où l'intelligence rencontre l'imaginaire. Le moment où on en dit trop ou pas assez. Mais le moment où on en dit. Le moment où, face au tumulte, face au labyrinthe, on tâche, comme disait Bettelheim, de mettre un peu d'ordre dans la maison intérieure, un ordre qui nous est propre, puisque le rêve appartient au rêveur et à lui seul. Alors voilà, c'est une heure avec des enfants qui racontent leurs rêves. C'est les enfants que Anne Rioux est allée voir à l'école élémentaire Voltaire à Montreuil. Des enfants qui sont en cours préparatoire, en cours élémentaire. Des enfants, vous allez voir, d'origines diverses. Et qui racontent leurs rêves exactement comme ils dessinent, avec cet aplomb, avec cette vitesse, à ce moment, non seulement où on tâche de mettre des mots entre le rêve et l'interlocuteur, c'est-à-dire souvent soi-même, mais ce moment aussi de la vie où on est entre le pour de faux et le pour de vrai, la limite n'est pas encore dessinée, la frontière n'est pas encore établie, le mur du conformisme n'est pas encore construit, on ne sait pas encore là si les tomates sont aussi rouges qu'elles le prétendent. C'est une heure à écouter sans vouloir analyser, bien sûr, sans vouloir disséquer, bien sûr, sans vouloir non plus réduire à joli, à cucu la praline, bref, à toutes ces choses rassurantes dont les adultes ont le secret inquiet. Une heure qui ne s'adresse pas à vous, mais à l'enfant en vous. Alors voilà, laissez écouter l'enfant que vous avez peut-être réussi en vous à ne pas tuer.
Et puis après, j'ai rencontré une fille. Elle était toute bleue. Oui. Bleu clair. Et j'ai dit à la fille de rendre ce monde plus joyeux. Et voilà.
Et ça a marché?
Oui.
Et le monde était plus joyeux?
Oui. Mais c'est un peu horrible, mais ça termine bien.
La 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 la. La 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 la. On peut pas vivre dans le passé, faut abandonner tout ce qui est périmé. Les idées reçues, les pensées fanées, les morales tordues et les tabous rouillés. Quand on a peur du progrès,
on devient l'apôtre des regrets. Oui, l'apôtre des regrets. La 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 la. Quand on a peur du progrès, quand on a peur du progrès, on devient l'apôtre des regrets. La 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 tout, la 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 tout, la 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 tout, la 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 tout. Oui, l'apôtre des regrets. La la la. C'était oublié.
C'est un grand moment de l'histoire d'une vie. C'est un grand moment de l'histoire des hommes. Jadis, et encore dans beaucoup de cultures, le rêve a une très grande importance. Le rêve est chargé de sens. Le rêve que va faire le chef de la tribu va être prémonitoire, va dire, va pouvoir trancher, va anticiper, va enseigner. Et aujourd'hui encore, finalement, individuellement, évoquer, énoncer un rêve, c'est une occasion. Une occasion de quoi? De penser à soi-même, de songer à soi-même, de méditer peut-être, d'être dans ce drôle d'état qui est entre le sentiment, l'émotion et l'intelligence. Et c'est quelque chose de très important. Encore, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, notre siècle aurait-il à la fin évacué le rêve, l'aurait-il réduit à la portion congrue? Au point que beaucoup diraient, mais moi je rêve pas, je rêve, alors qu'on sait très bien que nous rêvons tous, toutes les nuits nous rêvons, et que il suffit de décider de s'en souvenir pour qu'au matin, on puisse tenter de le raconter. Mais à qui? La solitude est telle, grandissante, qu'on n'a pas forcément les interlocuteurs pour raconter ce qui est une production absolument personnelle. C'est unique, le rêveur est unique, même si les matériaux de son rêve sont puisés partout. Le rêveur, on pourrait dire que le rêveur ou le rêve fait feu de tout bois. C'est la même chose chez les petits, sauf que à l'âge des enfants que nous allons voir, vers 6, 7, 8 ans, les frontières, je le disais tout à l'heure, entre le rêve et la réalité, mais c'est pas ce qu'on veut dire, entre le fou et le vrai, mais c'est pas ce qu'on veut dire non plus. En tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore dessiné, défini. Et c'est pas seulement un enchantement que vous allez sentir et entendre, c'est un étonnement, et c'est un étonnement, si vous voulez, si vous vous rendez réceptif, c'est un étonnement très profond, très ancien, et qui est en résonance avec la profondeur même de ce qu'on appelle l'humain.
D'accord. Je rêve presque pas.
Presque pas?
Oui, presque pas. Des fois je rêve et des fois je rêve pas.
J'aime les rêves. Parce que si je fais des cauchemars, moi j'ai le cœur qui est en train de dormir et je me sens un peu malade.
Et pourquoi tu aimes les rêves alors?
Parce que ça me fait rêver. En plus, il y avait mon père qui a dit, on y va dans le train des rêves, dans le monde des rêves, parce que quand j'étais petit, on faisait ce jeu-là tous les soirs. C'était un train qui va dans le rêve, on s'endort, et le train est déjà parti dans les rêves. Parce que, en plus, si on arrive tard dans la gare, ben on est en retard pour aller dans les rêves. Mes parents dorment déjà, mais moi j'arrive pas à dormir. Alors moi je me dis un peu comment je dois faire pour rêver. Et après je ferme les yeux et moi je m'en souviens pas le lendemain si j'ai fermé mes yeux pour rêver. Si je rate un train, je vais aller dans le mauvais train. Je vais aller dans une autre gare qui dit la gare des dangereux cauchemars. C'est mon papa qui m'a dit ça. Quand moi je dors les yeux ouverts et moi des fois je pleure des fois moi comme si ça m'arrivait quand j'étais petit quand j'avais quelques ans que j'ai pleuré.
Ha 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 ha
Les rêves en disent long, mais quoi au juste? Qui détient la clé des songes? Personne. Personne n'a jamais détenu la moindre clé du moindre songe, même s'il existe des quantités d'ouvrages depuis la nuit des temps, des quantités d'hommes et de femmes qui ont cru pouvoir dire le sens des rêves et interpréter les rêves. Mais interpréter, oui, on peut interpréter les rêves tant qu'on veut. Mais ça, c'est de l'ordre de la conscience, c'est de l'ordre du jour, c'est pas de l'ordre de la nuit, c'est pas de l'ordre de l'obscur. Ce combat entre le clair et l'obscur se fait là, devant nous, dans les voix et les mots de ses enfants.
Moi, le plus souvent, je rêve que je me marie avec des femmes. Le plus souvent. Et puis, voilà. Exactement, je vois que je suis sur un pont avec un toit. Il y a tous les gens en bas avec leurs chapeaux, les femmes comme ça, et puis voilà.
Toutes les femmes ont des chapeaux?
Non, que les messieurs, quoi.
Ah bon? Je croyais que c'était les femmes qui avaient des chapeaux dans les mariages. Non?
Non. Moi, je suis habillée tout en noir, avec un chapeau et avec une cravate, un nœud papillon, comme ça.
Et la mariée, comment elle est?
La mariée, elle est avec un... Elle est avec un truc là qui pend par terre, une robe blanche, et puis voilà.
Et elle est dans quelle couleur?
Blanche. On est sur une grande table, quoi. En train de manger.
Et tu te maries toujours avec la même personne chaque fois que tu rêves?
Non.
Non?
Non, non. Jamais avec la même personne.
Mais en fait, c'est parce que tu as envie de te marier?
Non, c'est pas vraiment ça. Ça m'est arrivé juste comme ça. Très souvent. Oui, mais des fois, je fais un rêve qui me choque. C'est un rêve que... Je rêve que je suis dans une maison hantée, avec des squelettes qui font les zèbres, des diables qui ont des cornes, mais comme ça.
Voilà. Qui veut vers le sol, quoi, qui tombe vers le sol, oui.
Et puis des vampires avec les dents qui vont jusqu'au parterre.
Dis donc, ouais. Et je suppose que tu as peur, alors?
Oh oui, j'ai fait un cauchemar, même que je suis allée rejoindre mon papa dans son lit. Un jour, j'ai rêvé une fois, après je me rendors, je rêve presque pareil. Je me rendors, je rêve le film qui me choque, là. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. C'est un jour que je l'ai fait. Le lendemain, je vais à l'école, machin truc, je rentre, je mange, je me couche, je fais celui qui me choque. Après, je me recouche le jour suivant. Je fais le même rêve que la première fois. C'est comme ça que voilà, je le fais très souvent.
Je m'appelle Alexandra, j'ai 6 ans et demi. J'ai rêvé que j'étais dans une fusée avec un copain et puis il y avait une grue en feu et puis j'ai voulu la sauver avec mon copain. Alors on a mis de l'eau dessus. De l'eau.
De l'eau, de l'eau sur la fusée?
Non, sur la grue, parce qu'elle était en feu. Et après, il y avait un peu de feu au-dessus qui était parti. Après, il y a des messieurs qui étaient dedans, parce que alors on les a enlevés avec mon copain. Après, on a appelé les pompiers parce qu'on n'arrivait pas à sauver la grue.
La grue, c'est ça?
Oui. Après, je suis rentrée à la maison. Avec mon copain.
C'est un copain que tu as vraiment ou que tu as dans ton rêve?
Non, c'est un copain que j'avais quand j'étais en maternelle. Il est resté en maternelle.
Ah, tu ne le revois pas. Est-ce que tu le revois?
Quelques fois dans la rue.
Pourquoi une grue? Tiens, quelle drôle d'idée. Pourquoi une grue en feu?
Je sais pas.
C'était un train qui va dans le rêve, on s'endort et le train est déjà parti dans les rêves. Parce que, en plus, si on arrive tard dans la gare, ben on est en retard pour aller dans les rêves.
Là, c'est
après, tu fais des rêves après.
Des fois.
Ça m'en fait,
Si je rate un train, je vais aller dans le mauvais train. Je vais aller dans une autre gare qui dit la gare des dangereux cauchemars. C'est mon papa qui m'a dit ça.
Rêve d'enfant, quand on dit rêve d'enfant, on veut dire quelque chose de joli, de cucu, de mignon, de frais. Alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai du tout. On a été enfant, on a des enfants, et on sait très bien que les rêves que nous faisons enfant ou pas, mais enfin enfant, puisque c'est des rêves d'enfant dont il s'agit là, mais sont loin d'être tout rose, tout gentil, tout ensoleillé. Il s'en faut de beaucoup. Beaucoup sont inquiétants, sont terrifiants, d'autres sont absurdes, sont insolites. Mais quel est le sens de ces mots insolites, absurdes, inquiétants, terrifiants par rapport aux rêves, surtout comme là, comme dans ces propos de ces enfants, où on se laisse aller, on a relégué la pensée là où elle doit être, le plus loin possible, je dirais la logique, et on s'abandonne à des associations de mots, d'idées, pour essayer d'échapper à la censure de la conscience, et ça donne ces récits qui sont évidemment, si on est réceptif, en écho avec les nôtres propres.
Je m'appelle François. J'ai 7 ans et demi. Et mon rêve, c'est que j'ai plein d'amis. Parce que hier soir, moi, j'ai rêvé qu'il y avait Pierre et qu'il y avait un enfant qui était tombé dans l'eau et Pierre était allé dans l'eau, mais moi, j'ai cru que c'était moi et je suis tombé dans l'eau aussi.
Pierre, c'est qui?
C'était un copain qui était avant dans ma classe et maintenant il est dans une autre école.
Et est-ce que tu le vois encore?
Non. Mais après, on a sauvé un enfant. Et après, on est remonté. Et moi, j'ai cherché partout Yuvadi, elle n'était pas là.
Yuvadi, qui est-ce?
C'était. Elle a aussi changé d'école. Parce que moi, un jour, j'ai dit à ma mère que j'avais pas de d'amis.
Et dans ta classe, est-ce que tu as réussi à te faire des amis?
Non. Mais j'ai pas d'amis. C'est normal que je rêve d'avoir des amis dans la classe. Dans la classe. Parce que ils veulent pas m'écouter. En plus, ils ont peur de moi. Parce que des fois, tout le monde m'embête et ça me fait pleurer en criant. Ça me fait pleurer en m'embête. Mais ils me donnent des coups et ils me font tout pour ils me font tout. Parce qu'en plus, quand le mardi, il y a ma mère qui va aller au médecin, pour faire la compounteur et moi je reste chez les parents de mon père. Même le vendredi, parce que là-bas, quand même, le vendredi je mange, même le mardi je mange. Et des fois, elle, tous les vendredis, elle va au supermarché à Auchan ou à Carrefour.
Et là, tu l'accompagnes?
Non, des fois. Et je peux pas maintenant, je peux pas parce que j'énerve maman quand je vais avec elle. Parce que moi je vois des jouets ou quelque chose qui me plaît et j'en veux, mais ma mère veut pas que je l'achète. Des fois moi je fais des cauchemars des fois. Moi, je fais des cauchemars et en plus, ça me fait réveiller. Je me réveille et je vais dans le grand lit. Des fois, j'ai peur que mon père est dans le grand lit. Et si mon père est pas dans le grand lit, parce que moi, je me réveille, des fois, je me réveille quand mon père est là et des fois, je me réveille quand mon père est pas là. Et ce matin, je m'ai réveillée tôt et j'étais à côté de ma mère.
Ton papa part très très tôt au travail?
Oui, il part avant moi. Moi, je rentre dans la classe à 9h et mon père vient plus tôt. Je ne sais pas l'heure qui entre du travail, qui entre au travail, mais il vient à 7h30 en plus. Il vient à 7h30 tard.
Le soir, tu veux dire, quand il rentre, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait comme travail, ton papa?
Dessinateur. Il est à l'ordinateur.
Il dessine sur des ordinateurs?
Oui, en plus, c'est ça mon métier que j'ai envie de faire. Moi, en avril, je suis née en avril et en plus, ça va être mon anniversaire.
Qu'est-ce que tu vas faire pour ton anniversaire en avril?
Ben, je vais faire mon anniversaire en avril. Ben, je vais inviter mes parents de mon père et j'aurai des cadeaux. Parce qu'on a toujours des cadeaux quand on fait ses anniversaires.
Et est-ce que tu inviteras des gens de l'école?
Non. Non, parce qu'en plus, ils connaissent pas ma rue.
Mais tu as un animal chez toi?
Oui, j'ai un chat. Elle s'appelle Maigrichon.
Et est-ce que tu as des frères et sœurs?
Non, je suis toute seule.
Et tu l'as dit à ta maîtresse, ça?
Non.
Pourquoi tu me le dis à moi, alors?
Parce que c'est mon rêve.
Après, je vais y mettre mes petits oignons. Et ce sont
des oignons nouveaux.
Des oignons nouveaux. Je vais les couper en deux. Tout ça, et je vais les mettre là. Voilà. Ça va faire un bon petit parfum, un bon petit goût et un bon petit mélange.
Oui, mais des fois, je fais un rêve qui me choque.
Ça ne peut pas que ça cuise fort, hein? Non. Jambon, il s'achèverait.
C'est mijoté de
fond. Ça serait vraiment dommage. Voilà.
Je suis tombée dans un trou. J'avais pu me jeter parce que là, c'était une grande licence. Alors, j'avais mal à la tête. Et puis...
Et on va enfoncer tout simplement. Ah, c'est pas compliqué.
Non. Tout à fait comme pour un rôti.
Vous faites un pareil.
Voilà. Notre pareil. Petit pareil. Petit lardon.
Je suis un peu rude. Mais ça termine bien.
Et vous allez les mettre dans la poêle avec le reste, vous croyez?
Tout va cuire en même temps.
Là, c'est...
Il y a toujours des rêves qui sont jolis. Des fois, ils me font pleurer les rêves.
Ils me font pleurer les rêves.
Ah oui, j'ai fait un cauchemar, même que je suis allée rejoindre mon papa dans son lit.
Des fois, je fais des cauchemars, des fois, je fais des rêves. Il y a toujours des rêves qui sont jolis. Des fois, ils me font pleurer, les rêves.
Oui, mais des fois, je fais un rêve qui me choque.
dis un peu comment je dois faire pour rêver, et après je ferme les yeux, et moi je me souviens pas le lendemain si j'ai fermé mes yeux pour rêver.
Entre chien et loup, mise en mots des rêves que font les enfants Bruno, Alexandra, François, Antoine, Youssef, Judith, enfants de l'école élémentaire Voltaire à Montreuil. Vous avez vu ce que dit François, c'est étonnant. Anne lui dit, mais pourquoi tu me racontes ça à moi? Parce que vous avez vu comment il est passé du récit de son rêve à lui-même. C'est une façon de penser à soi, de parler de soi. Et pourquoi tu me dis ça à moi, demande Anne. Et François, il dit, parce que c'est mon rêve. C'est quelque chose qui est à moi. Un rêve qu'on fait, c'est quelque chose qui est à soi. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait défricher, il faudrait déchiffrer. Et non, le rêve, c'est l'inverse. Il faudrait trouver des mots comme chiffrer, fricher. Voilà ce qu'il faut. C'est ramener du chiffre, c'est-à-dire du compliqué, du à soi, de l'unique et de la friche, c'est-à-dire tout ce qui sert de terreau au rêve, à la pensée, au sentiment, à l'émotion, etc. Il se pourrait bien que nous soyons peut-être éloignés de tout ça à notre époque. C'est pas si sûr que ça. Voilà, en tout cas, l'important, c'est les mots que ces enfants mettent sur leurs rêves dans la cour de l'école Voltaire à Montreuil.
Je m'appelle Dabo.
Dabo?
D-A-B-O. Mm-hmm. J'ai 7 ans.
Tu as des frères et sœurs?
8. Il y en a un qui s'appelle Madou, il y en a un qui s'appelle Djadé, il y en a un qui s'appelle Zeta, il y en a un qui s'appelle Diaby, il y en a un qui s'appelle Bakari. Et j'ai un petit frère qui s'appelle Samba et il y a une grande sœur qui s'appelle Sally.
Et toi, tu es où dans les 9 frères et sœurs?
Je suis moyenne.
Et tu es née à Paris?
Non, je suis née en France. À l'hôpital Montreuil.
Et alors, quand tu es une fée, dans ton rêve, qu'est-ce que tu fais?
Je fais de la magie. C'est quand on fait disparaître quelque chose et puis il y a un autre. Il y a quelque chose qui vient.
Est-ce que tu as fait disparaître des gens?
Oui. Je claque mes doigts. Comme ça. Il devient beau. Oui. Belle. Il y en a qui sont malade, je jette un sort pour qu'il devient plus malade.
Et quand tu me disais que tu rends les gens beaux, ça veut dire qu'ils étaient comment avant?
Elles n'étaient pas beaux, parce qu'elles avaient des vieux habits, elles n'étaient pas très bien habillées, elles n'avaient pas de beaux chaussures, et puis de beaux vêtements.
Et puis à ce moment-là, tu claques dans les doigts, et hop.
Et puis, il redevient beau, intelligent. Puis...
Et intelligent, ça veut dire quoi exactement?
Ah, ça veut dire qu'ils sont polis, ils sont bien élevés, puis ils sont gentils.
Est-ce que tu as de beaux habits ou pas de beaux habits, toi?
Des beaux habits.
Attends que je regarde. Ah, dis donc, c'est Adidas? Et en chaussures, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as de jolies chaussures?
Hein? Oui.
Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle?
Nike.
Nike. Et pour toi, c'est comment est la plus jolie robe ou le plus joli vêtement que tu puisses porter? Comment est-ce?
C'est un pantalon avec des rayures orange. Puis un sous-vêtement avec plein de fleurs là-dessus. Un petit personnage dessiné là-dessus. Une fée. Une magicienne. un garçon, une fille, des hommes, des femmes, puis un mot, un petit chapeau avec plein de fleurs là-dessus. Ça s'arrête pas très vite, ça.
Tous les jours.
Oui. C'est parce que c'est un rêve très joli que je voudrais le faire un jour.
Bonjour, je m'appelle Youssef, j'ai 9 ans, j'ai fait un cauchemar. C'est un fantôme qui vient m'écorcher. Oui. Il vient avec un couteau et coupe la tête.
Mais souvent ?
Oui.
Et après, qu'est-ce qui se passe ?
C'est fini. Je suis réveillée. Après, j'ai entendu quelque chose dans la cuisine.
Et tes parents sont d'où ?
D'Algérie.
Mais vous êtes... qui est-ce qui habite en France en ce moment ? C'est toi et puis ?
C'est moi et mon père et mes parents et mes frères.
Et où est le reste de la famille ?
En Algérie.
Et tu t'en souviens de l'Algérie, toi, ou pas ?
Oui.
Jusqu'à quel âge tu étais en Algérie ?
8 ans.
Je sais pourquoi il est parti, parce qu'il y avait la guerre mondiale. Moi, j'ai un rêve à dire, mais c'est un peu horrible, mais ça termine bien. Alors, c'est que je suis dans une maison hantée, et j'arrive dans un tunnel, je vois un train, et puis j'y vais dedans, et puis il y a des monstres, mais le plus pire que j'imagine, c'est un vampire avec une grande bouche et des grandes dents qui ouvrent devant moi, et puis j'ai pris une manche, et puis aussi j'ai vu de la bouille de sorcière qui descend du mur avec une araignée dans la truc, dans le chaudron plutôt. Et aussi il y avait un petit truc qui m'avait fait rebondir du train fantôme. Alors j'étais partie du train fantôme. Et puis je me retrouvais seule, sans monstre, sans rien. Et puis sans regarder devant moi, j'ai dit je suis tranquille. Et puis après, hop, je suis tombée dans un trou. Je savais plus où j'étais parce que là, ça tournait dans tous les sens. Alors j'avais mal à la tête. Et puis, quand même, j'avais vu le pire des monstres, avec des grandes dents, une plus grande bouche que le vampire. Et j'étais devant lui, oula, j'avais peur de lancer. Moi, j'étais à peu près comme ça, et puis il avait à peu près une dent comme ça.
C'est-à-dire que rien que la dent est 10 fois plus grande que toi.
Oui.
Dis donc, qu'est-ce qu'il fait comme métier, ton papa ?
Orthophoniste.
Et ça consiste en quoi ?
De réparer les langues.
Et comment ça finit ?
Comment ça finit ? Bah, j'avais trouvé une pierre, mais avec une pointe. Et puis j'avais jeté sur sa langue, mais la pointe était vers sa langue. Et puis après, il avait fermé sa bouche. Et après, ça appuyait dans sa langue. Alors il a eu très mal à sa langue. Et puis après, il avait avalé. Et puis après, il avait mal. Et puis il a commencé un peu à mourir. Après, et puis c'est pareil pour les autres. Après, j'ai essayé de trouver quelque chose. C'est une pierre avec une flèche au-dessus. C'était quelque chose de précieux. Alors je l'ai pris dans ma poche parce que j'avais un petit sac. Et puis après j'ai rencontré une fée. Elle était toute bleue.
Bleue ?
Oui.
bleu clair. Et j'ai dit à la fée de rendre ce monde plus joyeux. Et voilà.
Et ça a marché ?
Oui.
Et le monde était plus joyeux ?
Oui.
Et alors un monde joyeux, c'est comment un monde joyeux ?
Par exemple, avec des gens qui font la fête. Des gens qui préparent des gâteaux, des crêpes, des galettes.
C'est comme ça dans la vie ?
Oui.
Oui ? C'est vrai ?
Oui.
La vie est comme ça ?
Oui. Ils chantent, ils parlent, ils s'amusent. Voilà. Oui. Et puis après j'ai rencontré une fille, elle était toute bleue claire. Et j'ai dit à la fée de rendre ce monde plus joyeux. Et voilà.
Et ça a marché ?
Oui.
Et le monde était plus joyeux ?
Oui.
Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ça a marché et ça marche. Vous n'avez qu'à regarder par la fenêtre, vous allez voir, ça a marché, ce rêve-là, au moins il s'est réalisé. Si, je vous assure. Voilà, c'était un reportage d'Anne Rioux. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Et surtout, l'information du jour de Là-bas si j'y suis, c'est lundi prochain, lundi 29, à 20h30 au théâtre de Jazet, 41 boulevard du Temple, à Paris, place de la République, au coin de la place de la République, au métro République. C'est le procès du siècle. C'est la réhabilitation de BHL, notre intellectuel national, injustement traîné dans la boue par des envieux et des médiocres. Eh bien, il sera réhabilité lors de ce procès avec toute une équipe de brillants journalistes, avocats, musiciens, dessinateurs de presse, etc. On va à la suite d'autres procès. Vous vous souvenez qu'on a fait d'autres procès à un certain JC, ça ressemble un petit peu à Jacques Chirac, à Sarkozy aussi. Eh bien, cette fois-ci, c'est BHL. Il y aura une réduction importante qui sera à l'entrée accordée aux spectateurs et spectatrices qui arboreront une chemise blanche ouverte jusqu'au nombril. C'est lundi 29, 20h30 au De Jazet. À la technique aujourd'hui, Anna Arnstam et Thomas Robin. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radioprance.com.